Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charline.
Salut Charline.
Salut. Bon alors j'ai passé tout le week-end sur le dossier. On est bon.
Ok. Okay. Ouais,
vous avez rédigé vos CV.
Alors là.
Ah oui je vois. Ok d'accord. Bon. Vous allez me gribouiller sur un papier toutes vos compétences.
Oh, bah ça va aller vite.
Oui, bah ça je me doute bien. Ouais.
Bon, et puis on fait quoi?
Alors, après on met tout dans une grande enveloppe et on se rend pour le déposer au CSA.
Ok alors voilà l'enveloppe déjà.
Voilà alors j'écris dessus projet triumvirat
carrément en latin.
Voilà. Tac, ça c'est pour plaire à Jupiter.
Ah c'est malin.
Alors
ouais.
Le problème c'est que personne ne nous prend au sérieux à Radio France. Alors pour être crédible ce qu'il nous faut c'est une grosse exposition médiatique.
Moi, je connais un petit peu Sophie d'avant.
Ah, bah non, on va pas aller annoncer notre candidature dans une émission de brocante.
Bah, il faut un truc plus fort.
Ah, bah le 20h de France 2 à ce moment-là.
J'aimerais bien vous dire que j'ai le 06 donne Sophie Lapix, mais.
Ah, c'est Yann Barthès, il vient de me laisser un message vocal.
Oh, t'as là le numéro de Yann Barthès directement.
Attends, j'écoute.
Bah, mets-le au parleur, mets-le au parleur.
Vous avez un nouveau message.
Salut Charline, c'est Yann Barthès à l'appareil. J'ai entendu que vous étiez candidat à la présidence de Radio France. J'aurais aimé, je sais pas, si vous voulez en venir en parler ce soir dans Quotidien, c'est avec plaisir. Voilà, tu sais, Quotidien, c'est l'émission de gauche sur la chaîne de la Principauté de Monaco. Bon, mais tenez-moi au courant, et puis bon après-midi. Salut.
Oh bah attends, dis oui, voilà. C'est oui, on y
va.
Ouais,
non, mais je rappelle et je confirme.
Ok, moi aussi, je rappelle pour annuler, du coup.
Parce
en fait, j'avais un petit peu anticipé. J'avais dit ok à Sophie d'avant.
Oh là, mais qu'il est con.
Bah ouais, mais ça tombait bien, j'avais une vieille soupière à vendre, c'était l'occasion, mais bon.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up émission. Voici les trois informations qu'on va rouler dans la farine. Les petits boulots prolifèrent, ils engendrent les nouveaux prolétaires. Alors pour éviter de les laisser faire, les syndicats de travailleurs indépendants ont un combat à mener.
Les syndicats, prenez pas. Quand un chauffeur veut un congé ou de l'augmentation, il vient me trouver, je l'écoute et je le vire.
Le Louvre peut-il prêter la Joconde? La ministre de la Culture souhaite la faire voyager à la rencontre de ceux qui n'ont jamais eu la chance de l'admirer. Elle est tellement fragile, la Joconde, elle va peut-être être surprise en arrivant dans sa filiale à Abu Dhabi.
Elle fait vraiment une chaleur de pute.
Pour vous signifier que vous êtes son sous-fifre, votre patron devait déployer avant son journal ou poser les pieds sur son bureau. Aujourd'hui, le mépris s'affiche plus aisément, le nez sur l'écran de téléphone. Aujourd'hui, l'attention se mendille.
Ça vous intéresse pas ce que je raconte? Hein? Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Si? Alors je reprends pour les deux du fond.
Lui, je lui ai demandé de le ranger dans son slip. Le smartphone, hein, j'entends. Alex Vizorek.
Vous en voulez de ma soupière? Faut que personne à la récupérer du coup. Alors, autour de la table, une belle équipe pour commencer cette semaine. Évidemment, à 17h20, celui qui ressemble très fort à la playlist de France Inter. On ne le comprend pas tout le temps et on n'arrive pas à dire si on l'aime bien. C'est Djoubaka, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
D'Arad Kilo, vous allez adorer.
Ah bah dites, vous me connaissez
bien.
À 17h30, ses détracteurs disent de lui sur un air de clo-clo que c'est un sale bonhomme. Quelle sale personne, un monstre en somme, Guillaume Meurice.
C'est beau, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et je suis allé commémorer les 40 ans de la disparition de Claude François hier avec ses fans. Alors Claude François, c'est quoi?
Claude François, c'est Claude François.
Eh oui, c'est pas Jean-Pierre Madère déjà, ça c'est une première excuse.
On va gagner ce temps-là. Il y a 17h40, l'homme qui a fait du jeu de mots un art de vivre. Certains pensent qu'il a avalé Raymond Devos, ce qui expliquerait son physique avantageux. C'est vous Thomas Croisière, bonjour.
Bonjour Alex, moi je vais rester assis pour vous parler de Tout le monde debout.
Évidemment.
Comme ça, elle est faite.
Voilà.
Alors, je me tourne vers celle qui va ambiancer l'open space. Vous démarrez en 99 dans la peau d'Alex, la fille de un gars et une fille. Puis le théâtre, le cinéma vous propose des rôles de plus en plus nuancés. Vous êtes Mado dans J'enrage de son absence de Sandrine Bonner. Vous jouez dans L'épreuve d'une vie de Niels Tavernier, Ricky de François Ozon ou L'oncle Charles d'Étienne Châtillier. Et au théâtre, vous vous distinguez dans Thérobe de Christian Siméon, puis dans La Vénus aux Facochères du même auteur, notamment. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes
Alexandra Lamy.
Oh, oui, voilà, c'est elle.
Bonjour.
J'ai reconnu. Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonjour Alexandra Lamy, bienvenue.
Bonjour, merci.
Et vous êtes souriante en vrai en plus.
Bah oui, c'est sympa, vous m'invitez, je suis hyper contente.
Vous entrez le même jour au musée Grévin et dans Par Jupiter, c'est un grand jour Alexandra Lamy. Tout le monde debout, c'est le film dans lequel vous jouez, film de Franck Dubosc, et oui, réalisateur, en salle mercredi avec Franck Dubosc, avec Elsa Zilberstein, Gérard Darmon et Caroline Anglade notamment. Tout le monde debout et Alex Vizorek est allé vous voir en compagnie de Thomas Croisière.
On est en amoureux.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne, Alex Vizorek ?
Mais écoutez, on les voit partout, Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Zazie de Bernstein, tout le monde leur dit que c'est bien, même Yann Moix a dit, c'est formidable, c'est une grande comédie populaire.
Mauvaise nouvelle, là.
Mais oui, mais qu'est-ce que...
qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Non, moi, je voulais vous poser la question, et sans doute, elle a déjà été posée, mais comment on ose se lancer en tant que comédienne, vous, lui, en tant que réalisateur, dans une comédie sur le handicap après Intouchables ?
Alors d'abord, c'est pas du tout la même histoire. Hein.
Alors on est bien d'accord.
On est bien d'accord. C'est pas parce qu'il y a un handicap qu'on est forcément obligé d'avoir toujours la même histoire que les précédents.
Vous allez dire que ma question simplifie les choses.
Non, mais oui. C'est vrai.
On sent que ça fait deux semaines qu'elle en prend. Voilà.
Non, mais oui, mais bien sûr.
Déjà
rembarré. On est un peu rodés.
Les idiots comme moi.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir. Ce qui était bien, c'est surtout que Franck m'a absolument pas parlé de l'histoire. Donc j'ai lu le scénario ne sachant absolument pas de quoi ça parlait.
Vous ne saviez pas qu'elle était sur la chaise ?
Non, pas du tout. Je ne savais
rien. Parce que c'est vrai que c'est une vraie comédie romantique.
Oui, complètement. Et quand il m'a envoyé son scénario, écoute, il m'a dit, lis-le et voilà, tu me diras. Et c'était bien parce que je ne savais rien. Donc au moins, je l'ai lu complètement vierge. Et donc j'ai lu et j'ai trouvé ça vraiment super bien. En fait, je crois qu'il a eu raison de faire ça parce que l'histoire, comme elle se porte, je me suis laissée complètement embarquer par l'histoire parce que c'est extrêmement drôle, c'est émouvant, il y a un vrai fond. Donc, ouais, j'ai dit oui tout de suite. Après, effectivement, comme je dois jouer une personne en situation d'handicap, je me suis dit, mince, est-ce que je vais y arriver? Parce que ça met tout de suite une petite responsabilité sur les épaules. On se dit, est-ce que je vais être crédible? Et j'ai eu la naïveté de me dire, bah, écoute, essaye. Donc, voilà,
j'ai travaillé. C'est quelque chose justement qui est un défi pour vous ou qui est plutôt à vous dire, j'aurais préféré un rôle plus facile entre guillemets.
Non, mais c'est ça qu'on aime bien, c'est toujours un peu avoir des challenges quand même, c'est un peu le but de l'acteur. Plus c'est après effectivement, justement vous m'en parlez parce que je sais que j'ai parfois quelques personnes qui me reprochent, enfin qui nous reprochent en nous disant que...
Je n'en ai pas parlé, mais
non,
allez-y.
Non, c'était pas du tout par rapport
à vous. Je vois où vous voulez en venir.
Mais que parfois effectivement on n'est pas pris une vraie personne qui soit en fauteuil ou qui est vraiment en situation d'handicap. Le problème qu'il y a, c'est que ce que je dis, et je sais que parfois on s'acharne sur nous, mais nous on n'y peut rien, c'est qu'il faut des personnes qui soient bankable. Et dans un film, et d'ailleurs bankable, ça ne veut pas dire forcément connu. Il y a des gens qui sont connus, mais sur lesquels on ne peut pas mettre d'argent pour monter un film. Donc c'est des choses qui sont importantes à dire. Et surtout pour un film comme le nôtre, on ne peut pas être qu'un seul acteur connu. Il faut quand même qu'on soit plusieurs pour monter un film.
Le mot bankable est un peu cynique malheureusement, et donc mal adapté à la situation.
Mais mal adapté, mais c'est vrai. Ça veut dire quand on dit bankable, ça veut dire qu'il y a du public qui vient. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui va venir pour payer pour aller voir le film. Sinon, on ne monte pas le film.
Et puis surtout les financiers qui investissent dans le film. Ils peuvent miser sur vous et Franck Dubosc, mais ils miseront pas sur...
Mais non.
Moi.
Non, mais c'est vrai. Après, ce que je dis, c'est effectivement. Je dis ça parce que justement. Alors, vous vous êtes trompé un peu dans le titre, mais ça s'appelle De toutes nos forces, le film de Nils Tavernier,
qui est
passé dimanche soir. Et justement, je disais, au lieu de nous dire à nous que c'est notre faute, alors que nous, on n'y peut rien quelque part, il vaut mieux plutôt soutenir les personnes. Parce que dans ce film-là, justement, il y a des vraies personnes, des acteurs en situation d'handicap et qui jouent. Vaut mieux les citer et dire bravo, on a envie de voir ces gens-là. Et là, les choses changeront. Tant qu'on ne donne pas aussi de reconnaissance à ces acteurs-là, il ne se passera rien. Donc, plutôt que de critiquer, il vaut mieux dire « Non, moi, j'ai aimé cet acteur, j'aimerais le revoir et donner une reconnaissance à cela. » Parce que nous, finalement, on ne peut rien faire.
Et rappelons que vous reversez votre cachet à Handicap International.
Évidemment. Et tout le film, d'ailleurs. Et les producteurs sont ravis.
On a parlé beaucoup de ça. Et puis, moi, je voulais revenir sur la comédie française en général. Parce que j'imagine que vous devez voir passer pas mal de scénarios de comédie française. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez celui-là plutôt qu'un autre ? Moi, j'en ai vu pas mal ces dernières années, j'ai aucun flair. C'est-à-dire que j'ai coexisté des bouées, j'ai trouvé ça tellement drôle.
Mais génial.
J'ai pas compris que ça fasse pas un énorme carton.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? J'ai trouvé ça beaucoup moins fort et ça a fait un énorme carton.
Mais les gens sont des cons, on l'a dit.
C'est pas à vous que je posais la question, mais.
920 000 auditeurs qui sont des gens très intelligents.
Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario-là et qu'est-ce qui fait que vous pensez que ça peut être un succès populaire ?
Bah, ça, malheureusement, on ne sait jamais. Parce que, comme vous disiez, c'est pas parce qu'il y a ma sœur dans Coexister, le film de Fabrice Eboué.
Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas
pensé. Mais franchement, moi j'ai trouvé le film génial et tout le monde nous a dit ça va être un carton. Bon,
oui.
Ça a bien marché quand même, mais pas autant
au dîner
que...
de famille, vous allez pouvoir vous la péter si vous faites 4 millions avec celui-ci.
Mais c'est vrai que ça fait... Les comédies, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Évidemment.
C'est évidemment, on le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des acteurs de drame ou des réalisateurs de drame qui ne vont pas se frotter à la comédie, parce qu'ils savent très bien que c'est extrêmement difficile. Même à lire, parfois on se dit, ça peut être même drôle sur le papier, puis parfois quand on le tourne, on se dit, merde, c'est un peu lourd en fait. Donc c'est très très difficile. Là, ce que j'ai aimé dans celle de Franck, vraiment, c'est que j'ai trouvé ça drôle, et je trouvais qu'il y avait un vrai fond. C'est bien aussi dans les comédies dis quand il y a, on raconte quelque chose, il y a quand même un fond. Et que même parfois, ça peut être presque une ligne dramatique. C'est souvent, les plus grandes comédies, c'est souvent celle-là. Oui. Lubitsch était très fort, mais justement pour se faire des comédies comme ça, c'est-à-dire d'avoir un fond dramatique et d'en faire une comédie. Parce que ça permet aussi parfois de dénoncer des choses grâce à la comédie. Mais c'est extrêmement dur. Parfois, je suis un peu comme vous, hein, je me dis, bon, ça a l'air drôle, je vais y aller, et puis voilà.
On croise les doigts pour vous.
Bon, on croise les doigts.
Tout le monde debout, donc, de Franck Dubosc en salle mercredi, et cette Alexandra Lamy, notre invitée, qui a joué dans De toutes nos force de Nils Tavernier, évidemment. Mais à coup pas, mais à coup
c'est
pas.
Lundi. C'est lundi.
Le nouveau film donc, de Franck Dubosc avec Alexandra Lamy sort mercredi en salle par Jupiter sur France Inter. Vous avez choisi la Djoubaka qu'on vient d'entendre.
Spencer Davis Group avec, dites-le-moi,
Stevie Winwood.
Voilà.
Ouais.
Amen.
Et qui sont ces spécialistes autour de la table pour entourer Alexandra Lamy, notre invité?
Vous avez reconnu Thomas Croisière, un spécialiste de musique qu'on peut chanter. Et Guillaume
a joué dans les croisières.
Qui apparemment aurait chanté dans les jours qui ont précédé. Et la vidéo pourrait ressortir, évidemment, qui pourrait compromettre notre présidence.
De bon. Michel Sardou.
Et voilà.
Voilà. Alexandra
Lamy.
Je ne vois pas. Alexandra Lamy est avec nous jusqu'à 18h, on en profite. Et d'abord, on va se mettre bien d'équerre sur l'info. On part sur de bonnes bases. C'est parti.
Vous savez ce que ça veut dire?
Le journal de presque 17h17.
Pas du tout.
Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible.
Et on commence par les titres.
Le Front National a profité pour dévoiler son nouveau nom, Rassemblement National.
Oui, le RN. Donc RN, comme le symbole atomique du radon, un gaz radioactif cancérigène qui s'insinue en silence dans nos demeures.
Donc le FN ne pourra sans doute pas utiliser le nom Rassemblement National parce que celui-ci a déjà été déposé.
Marine, elle arrive même pas à trouver un nom pour son propre parti. Elle voudrait diriger la France. On est bien.
Parce qu'il y aura des brèves.
Oui, j'ai changé le nom des brèves. À partir de maintenant, les brèves s'appelleront les brèves.
Ah. Ça change tout.
Voilà. C'est audacieux. Et on commence donc par l'événement du week-end.
Et c'était le FN qui était donc en congrès et qui recevait un invité vedette, l'ex-conseiller sulfureux de Donald Trump, Steve Bannon.
Oui, le problème c'est que Steve Bannon parle anglais. Et pour trouver des gens qui comprennent l'anglais au Front National, eh bien c'est pas simple.
Ouais, donc il y a eu des gros problèmes d'interprète.
Oui, alors il n'y a pas que devant le tribunal que le FN ne supporte pas d'être traduit. Alors j'ai pris pour moi ce qui était la meilleure. Donc écoutez Bannon qui énumère les concurrents de Trump et la traductrice qui fait de son mieux.
Marco Rubio, John Kasich.
Marco Rubio, John Kasich.
Jeb Bush.
Jeb Bush.
Ted Cruz.
Tom Cruise.
C'est ballot. Elle n'est pas très calée en politique, la madame.
Jean-Marie Le Pen a évidemment réagi ce matin sur notre antenne en déclarant « Changer le nom du FN est un assassinat politique ».
Oui, et c'est la première fois qu'on peut associer le nom de Martin Luther King à celui de Jean-Marie Le Pen.
Et pour en terminer avec l'extrême droite, oui. Florian Philippot était l'invité des Terriens du dimanche.
Et François-Olivier Gisbert lui a posé la question qu'on rêve tous de lui poser un jour.
Philippot, je ne peux pas penser une seconde que vous êtes assez con pour croire tout ce que vous dites.
Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Voilà. Passons à droite.
Pour une fois qu'il fait son métier, celui-là. Voilà. Virginie Calmel, oui. C'était l'invitée de Laurent Ruquier samedi soir.
Oui, et à la question comment peut-on travailler avec Juppé et Wauquiez, elle nous a expliqué.
Je vais vous expliquer. D'abord, il faut comprendre une chose. J'ai une double loyauté.
Double loyauté. Alors, je vous conseille cette technique que vous ferez gauler par votre femme avec votre maîtresse. La double loyauté.
Allez, international, oui. En Inde, Macron a signé un contrat de 12 milliards pour le groupe Safran.
Il est fort, hein. Il vend du safran à l'Inde. Prochain objectif, réussir à vendre du Vinci à l'Italie et des supermarchés casinos à Las Vegas.
Syrie, à présent, François Hollande appelle à agir pour les Kurdes et la Ghouta. Et François Hollande s'en est pris à la Russie.
François Hollande. Appel à agir. Allez, la suite.
USA, oui. Trump, inspiré par le 14 juillet où il était invité en France. Oui. Hein. Et bien maintenant, il aura un défilé militaire aux États-Unis. Ce sera le 11 novembre et ce sera sans chars.
Voilà, mais en même temps, si vous voulez voir défiler des chars américains, il suffit d'aller dans un pays pauvre qui possède du pétrole.
Sport avec du cyclisme, oui. Et le Tour de France 2018 qui partira de Nice.
Oui, Eric Ciotti se sent pas bien. Voir débarquer autant d'étrangers complètement drogués dans sa ville, ça l'angoisse.
À la télévision, TF1 se demande comment relancer les audiences du concert des Enfoirés pour offrir plus de repas aux démunis.
Voilà, si ça continue, il va falloir faire un concert au profit des Enfoirés et là, ça va être quand même être pénible.
C'est l'heure des brèves.
Oui, Indre-et-Loire, des chômeurs victimes d'une escroquerie à la fausse offre d'emploi portant le logo Pôle emploi.
Aïe.
En même temps, ils auraient dû s'en douter, Pôle emploi qui propose du travail, c'était quand même louche.
La dernière,
en Sibérie, un sac contenant 54 mains a été découverte. On dirait qu'en Russie, ils prennent au premier degré le concept du sac à main.
Alexandra Lamy est avec nous.
On va pas cette dernière, mais visuellement...
Alors je valide totalement.
Oui, ça m'aurait étonné, oui.
Pardon. Alexandra Lamy, qui fait changer le regard qu'on porte sur le monde dans ses films. Là, le dernier, c'est avec Franck Dubosc, Tout le monde debout. Et justement, ici, on change le monde, Alexandra Lamy. Et on vous attendait aussi pour ça.
Oui, voilà, c'est pour ça que je suis
venue.
Tout de suite, je mets mes lunettes pour changer le monde.
Tout de suite, les solutions d'Alexandra Lamy pour le prolétariat du 21e siècle. Car ce sont les auto-entrepreneurs, vous savez, Uber, Deliveroo, etc. Ou aussi les travailleurs qui nettoient nos bureaux tôt le matin, avec 2 heures de transport aller-retour, avant de revenir bosser tard le soir, encore 2 heures de transport aller-retour. On les connaît, on les croise, nous, ici. Et en Angleterre, un syndicat a décidé de les fédérer.
Il subsiste des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles. Voilà, on peut pas, tant que les pouvoirs publics auront pas accepté ce que les dirigeants du SGEN, de la FUV, du SPLIT et du SGEG réunis ont proposé, on reste dans l'impasse.
C'est quoi vos propositions?
Alors, bon, les propositions, elles sont claires. Primo, revalorisation des pouvoirs d'achat. Deuxio, augmentation des salaires. Et tierso, trimo, plus d'argent à la fin du mois.
Les inconnus, toujours d'actualité bien sûr. Alors, les grandes centrales syndicales du Royaume-Uni, elles sont implantées dans l'industrie et la fonction publique. Eh bien, le secrétaire général des travailleurs indépendants, c'est un syndicat assez neuf, il a 32 ans et il lutte pour ceux qui exercent des petits boulots, donc on l'a dit, les Uber, les Deliveroo, etc. Alexandra Lamy, est-ce que vous vivez toujours en Angleterre?
Oui,
toujours le cas. Est-ce que vous les voyez, vous les croisez? Souvent, on les appelle les invisibles, ces gens qui nous livrent des repas, des colis, ces gens qui nettoient les bureaux, etc. Est-ce que vous êtes parfois confronté à eux parce que vous faites appel à leur service ou vous les voyez dans la rue? Est-ce que les invisibles sont un peu visibles aux yeux du citoyen?
Si vous parlez dans les invisibles, les Uber, les Deliveroo, etc., oui, on les voit, mais on les voit aussi en France. Je ne sais pas si c'est le même rapport, mais je ne sais pas s'ils ont autant de syndicats que là maintenant en Angleterre, je ne sais pas.
C'est toute la question, c'est de les fédérer. Alors, manifestement, c'est un article paru dans Le Monde aujourd'hui qui nous explique que voilà, ce syndicat des travailleurs indépendants, il y a un tout jeune, à 32 ans à sa tête, qui propose de les fédérer, de partir au combat avec un syndicat un peu 2.0.
Mais parce que je sais qu'en Angleterre, les petits boulots sont acceptés, et je crois que ce n'est pas le cas en France. Ou alors je dis une énorme bêtise.
Qu'est-ce que vous appelez petit boulot?
Justement, de pouvoir faire plusieurs boulots.
Ah oui.
Ouais. Je crois que c'est. Alors,
ah, bon. Alors il y a une vision
à blanc.
Ah, si, c'est accepté de faire ce rouleau, il y a une durée légale.
Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un truc.
Alors, il y a une vision plus libérale.
Alors que
en
je sais qu'en Angleterre, il y a un truc très libre où effectivement, ils peuvent vraiment faire plein de petits boulots, ce qui fait que ben, c'est horrible parce que les gens sont forcément exploités, ils ont des horaires de fou et ils n'ont pas de syndic, etc. Donc, c'est ça qui est effectivement extrêmement compliqué.
Mais est-ce que comme ça, sous votre œil, vous en voyez beaucoup plus en Angleterre qu'en France, ou finalement, la France, vous vous êtes dit, tiens, elle importe un peu ce modèle, puisqu'on les voit aussi en France, où vous trouvez une différence de masse, je dirais.
Honnêtement, je sais pas, mais bon, en même temps, je dis j'habite en Angleterre, attention, hein, je suis beaucoup plus en France qu'en Angleterre, déjà. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que vous savez, il y a Londres, mais c'est comme partout. Hein. Il y a Londres et puis il y a toute l'Angleterre aussi. Et tout ça, on ne voit pas. C'est pas les mêmes niveaux de vie aussi. Hein, parce que dès qu'on rentre quand même en Angleterre un peu plus profonde, j'allais dire, quand on passe Londres, c'est déjà plus dur.
C'est pas la même musique.
Ouais, c'est pas la même musique déjà.
Et pour terminer avec ce sujet, vous, comment vous voyez cette accélération du travail précaire? Ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont tous auto-entrepreneurs. Donc dès qu'il s'agit de défendre leur métier, c'est difficile de se fédérer puisqu'on est chacun, on bosse chacun dans son coin. C'est une évolution de société à laquelle on fait tous un peu face. Est-ce que vous voyez ça d'un œil plutôt positif, négatif?
Je vous avoue que je ne me suis pas complètement penchée parce que j'ai beaucoup de dossiers en ce moment.
Excusez-moi.
Il y a tellement de dossiers en ce moment.
Vous n'êtes pas syndicaliste dans l'âme.
C'est le nouveau prolétariat en fait. C'est-à-dire qu'on a fait croire à tout le monde qu'il pouvait être son propre patron. Ouais, tout le monde a fait « Oh chouette, je vais pouvoir être libre quoi, et gérer mon temps. » Et en fait, tout le monde s'est fait niquer. Tout le monde est esclave de son téléphone, en fait.
Exactement.
Si vous êtes d'accord avec Guillaume, c'est qu'il y a une syndicaliste qui dort en vous. Allez, passons à la musique avec Djoubaka.
Ouais, aujourd'hui, je vais vous parler d'Arat Kilo, qu'on entend derrière moi. C'est un de nos meilleurs groupes de musique éthiopienne fabriqué ici en France. Mais avant, un petit peu d'histoire, parce qu'Alex aime bien ça, justement, l'histoire en musique. Ouh. Et la musique en Éthiopie tient du roman. D'abord, c'est un berceau de civilisation où les instruments sont souvent rencontrés, mais qui va aussi être très, très marqué par la politique. Alors, voici un des pays d'Afrique où les cuivres, les mêmes que ceux qu'on retrouve dans n'importe quel groupe de soul, ont une histoire très particulière. En 1924, il y a Haïlé Sélassié qui rencontre 40 orphelins qui ont survécu au génocide arménien. Il les adopte, les 40 d'un coup. Il leur donne accès à une éducation musicale et ils vont créer l'orchestre de cuivre impérial, c'est-à-dire qu'ils vont devenir non seulement l'orchestre de toutes les cérémonies, mais entraîner aussi toute la population dans un amour du cuivre. Et puis après, il y a la fanfare. Mais les fanfares, où qu'elles viennent? C'est les Italiens. Quand Mussolini quitte le pays, il laisse ses instruments, déjà il ramène ses armées, mais les mecs, ils récupèrent quand même un paquet de saxophones, de bourdons et de trompettes. Et donc, une grande partie de la population, en fait, locale, va récupérer ses instruments et va réussir à jouer du jazz. Mais c'est pas...
de la colonie.
Michel Sardou est de retour. Michel, on t'avait oublié. Welcome home. Voilà. Mais à cette époque, en fait, les seuls groupes qui ont le droit de jouer sont ceux qui sont adoubés par l'empereur. Et il faut attendre un peu comme partout dans les années 60 que ça se lâche un petit peu, que ça se débride ou qu'on contourne la censure. Et un des musiciens les plus influents de l'époque s'appelle Mulatu Astaké. Il s'est formé à Londres et à New York. Et lui, il va générer un mix vraiment entre les rythmes traditionnels, la soul, le rock psychédélique des années 70. Et une grosse partie de ce patrimoine, en fait, va être réédité en France. Et c'est pour ça qu'on le connaît assez bien, en fait. Et donc, il y a des groupes qui vont se former et un groupe français passionné en fait par cette forme de musique, c'est Arat Kilo qui existe depuis maintenant 10 ans. C'est 6 musiciens qui viennent du jazz mais pas que, et qui ont le souci en fait de faire une musique jouée depuis plus de 50 ans, mais d'en faire aussi une porte d'entrée vers d'autres expériences où ils sont capables d'intégrer une vitesse record des talents venus d'ailleurs. Alors toujours faut-il ne pas se tromper de casting, on en parlait tout à l'heure pour autre chose. Et là, pour le dernier album Vision de Selam, Vision de Paix, ils ont fait appel à deux artistes souterrains. Alors la première, c'est Mamani Keita, qui est une chanteuse malienne qui a fait de l'électro au début des années 2000 en Afrique. Et en deuxième, on a McLeod, qui est un rappeur de Boston, qu'on a vu aussi bien sur les planches des théâtres que sur des scènes musicales. Et il faut pas croire que ces mariages de papier deviennent facilement des mariages de notes. En fait, c'est le contraire des chaises musicales. Et c'est là, franchement, que ça devient intéressant. Il faut dire qu'Arat Kilo, c'est un groupe qui a déjà tenté cette expérience auparavant avec Roca Traoré, par exemple. Mais sur ce disque, on sent qu'ils ont envie de pousser un peu plus loin le ricochet et de faire rentrer dans leur composition des influences très urbaines comme le hip-hop, bien sûr, mais aussi le dub, le reggae, que du bon, quoi. Outre le son, Tout ça est enregistré dans une fièvre de 3 jours, dans les conditions du direct, avec un simple 24 pistes. Et tout cela prend vraiment un sens humain plus que chaleureux, quand on sait que la musique originelle de ce pays, c'est aussi celle de 75 ethnies différentes qui ont forgé son algorithme. Donc, Arad Kilo évite la poussière de la nostalgie.
It on ya, raise the bar and they move it on you. Take you off, the goal is farther. Come harder, start a new method. I'd say revolution, but the word been deaded. Let it, chaos embedded. They'd rather you stare about if we organize, they can get it. Siege since dawn. That's how they see it, so they ring the alarm before we even realize that they mean us harm. Super rich know exactly what's wrong. They got the goodies and they bought them for us on. And we the world full of workers, 8 billion strong. That's how we coming, so come on. For great matter, always get it all you suckers scatter when I come hard like mix it in the back, come on.
Arad Kilo, Chaos Embedded. Donc.
Bien dit.
Merci, Djoubaka. Formidable découverte. C'est super. On adore. Et j'en profite, Djoubaka, pour signaler la sortie, ça y est, de votre revue Hey.
Ben voilà.
H-E-Y, point d'exclamation. C'est la revue. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Allez-y.
D'art contemporain et de pop culture.
Ouais.
Art moderne.
Ouais, on est en fait l'autre regard sur la pop culture. C'est-à-dire, ouais, ce que vous imaginez de la pop culture, ben c'est chez nous, vous allez pas le trouver.
C'est-à-dire,
parce que nous, on est vraiment énervés.
C'est chez Antoine Decaune, l'heure d'avant, là.
Non, parce qu'Antoine, encore, il y est pas.
Alors, c'est tout ce qui est pas dans le marché, hein, on peut le dire. C'est plus alternatif, c'est ce qui dépote, et c'est très classieux, je peux
et vous
c'est
dire. En librairie.
Voilà, c'est en librairie, et pour les étudiants en art, il y a une version numérique qui est disponible, qui est un peu plus démocratique, mais l'objet en soi, si vous allez en librairie. La revue, hey, bah non, mais ils sont étudiants, donc ils ont plus de difficultés. Et puis surtout, ils ont 5€ d'APL en moins, je vous rappelle. Donc ils peuvent pas mettre dans Hey. Et puis, vous pouvez aller sur www.heyheyhey.fr. Voilà.
Et tout savoir.
Tout savoir. Et puis, pour ceux qui aiment le côté un peu sociétal, comme nous aussi, ouais, ça dit beaucoup de choses. On se prend bien dans la gueule, la société vue par les artistes.
Bah oui, ils sont témoins de notre époque.
Voilà, hein, pour Djoubaka.
Peut-être plus que certains.
notre invité, c'est Alexandra Lamy, qui est venue nous parler de Tout le monde debout, c'est le vrai film de Franck Dubosc qui sort en salle mercredi, où elle joue aux côtés de Franck Dubosc lui-même, d'Elsa Zilberstein, de Gérard Darmon et Caroline Anglade.
Très drôle, Elsa Zilberstein, on le dit partout aussi.
Hyper drôle. Mais hyper drôle. Ouais.
Thomas Croisière va revenir sur le film tout à l'heure et
on va changer de ton.
Accrochez-vous. Et pour respirer un petit peu avant, le temps de vous préparer psychologiquement à cette épreuve, il y a à côté de vous Guillaume Meurice.
Oui, bon, on a fêté hier les 40 ans, d'une expérience physique réalisée par le chercheur Claude François, qui a démontré scientifiquement que tout corps plongé dans un liquide ne doit pas confondre le savon et le disjoncteur. Et la particularité de ce chercheur, c'est qu'il faisait en parallèle des chansons. Voilà. Et oui, et que voilà, 40 ans après sa mort accidentelle, donc par conduction spontanée, il fait encore parler de lui. Il a encore beaucoup de fans qui se sont réunis hier dans son ancienne demeure, le Moulin de Dannemois, et j'y étais, évidemment. On commence avec une première fan. Est-ce qu'elle était déjà venue ?
Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et puis j'étais avec mon père, j'étais avec ma mère. Et
vos frères, vos sœurs ?
Voilà, c'est tout.
Voilà, bah oui, parce que c'était obligatoire à un moment donné. Voilà, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, si j'avais un marteau, hein, adapté par Xavier Dupont de Ligonnès, si j'avais une terrasse, j'y mettrais également toute la famille. Alors, il y avait beaucoup de monde, hein, faut le dire, plusieurs générations, dont des fans depuis toujours.
Ouais, petit à 7 ans, à l'âge de 7 ans.
Et vous lui ressemblez un peu ?
Ah ben, vous voyez comment c'est ?
C'est vrai ?
On me le dit, mais quand j'étais plus jeune, on me dit François Valéry. Bon, ouais.
Vous êtes un mélange de François Valéry et de Claude François.
Voilà, oui, un peu.
Et vous êtes Claude François Valéry.
Voilà.
Voilà, dans la grande tradition des Richard Anthony Delon, Eddie Mitchell Sardou, évidemment, qu'on connaît. Il y en a plein, hein, Christian Jean-Pierre Pernaut, James Dean, Martin Scorsese. Enfin, il y en a plein, je peux vous faire la liste. Et il y avait plein de monde aussi à la cérémonie qui avait lieu la veille et à laquelle ce fan a assisté.
Ah ouais, c'était terrible, c'était bien. Il y avait du monde, il y avait quelques chanteurs qui sont arrivés. Tout ce qui était prévu, c'était pas venu. Daniel Gilbert, j'ai pas vu.
Il n'y a pas Daniel Gilbert ?
Non. Il y avait, vous rappelez le monsieur qui faisait le pingouin de ventriloque à la pêche au moule. Je sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais il était là.
Ah, ben, un ventriloque qui chantait à la pêche au moule.
Ouais, avec son petit pingouin.
Ah bah merde, on a raté des trucs. Bon, pas de regret quand même pour Daniel Gilbert, ouais, qui n'était pas là. Alors je fais un petit point pour nos auditeurs les plus jeunes. Si vous avez de moins de 146 ans, vous pouvez pas comprendre cette chronique. Hein, c'est normal, on parle de gens que vous ne connaissez pas. Encore que Claude François est revenu à la une de l'actu avec des histoires de mœurs. Qu'est-ce qu'on en pense chez les fans ?
Vous savez, on dit beaucoup de choses sur Claude François. Alors donc, faut en prendre à laisser, tout simplement.
Qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous laissez alors ?
Ben on prend tout le bon et on laisse le mauvais.
Il n'y a pas de mauvais dans Claude François.
Il n'y a rien du tout, rien de mauvais.
Non, tout est bon, tout est bien, je l'aime, toujours. Tout ce qu'on rencontre, c'est faux.
Voilà, tout est faux, hein. C'est pas les décodeurs du monde, c'est les déclocodeurs de Claude François. Faudrait mettre sur le coup leur service pour Nicolas Hulot et Darmanin. Mais bon, il y a quand même pas mal de sources concordantes sur les affres sexuelles du chanteur. Alors, ces rumeurs, ces révélations...
Non, oui, ça faut pas écouter, quoi, c'est les antifans, on va dire, quoi.
C'est vrai, il y a des antifans de Claude François ?
Oui, comme tous les chanteurs.
Alors, c'est qui les antifans de Claude François ? C'est les fans de Gilbert Bécaud ?
C'est, ouais, je sais pas, ouais, il a pris sa femme quand même, Gilbert Bécaud.
Il a quoi ?
Il a pris sa femme, Jeannette.
Ah, c'est vrai ?
Et oui.
Ah oui, c'est vrai que le Gilbert, il s'était barré avec la femme à Clo-Clo, on l'a oublié. Sûr. Alors l'histoire ne dit pas si Claude François s'est vengé en prenant la fille de Gilbert Bécaud, ou la petite fille, hein, on ne sait pas, parce que on sait que Claude, il aimait les femmes, il aimait les jeunes femmes, hein, n'est-ce pas monsieur ?
Oui, des jeunes, mais bon, c'est vrai qu'il a... Claude François avait une expression, il disait, moi, mes fans, ils vont de 7 à 77 ans. Il aimait bien les femmes jeunes, quand même.
Oui, c'est ça, oui. Il intéressait, c'était plutôt les tranches 14-18 ans.
18 ans, on va dire, parce que 14 ans, ça fait un peu désordre.
Ça fait surtout Marc Dutroux, hein, quand même, plus que désordre. Alors attention, je sais à quoi je m'expose, hein, les fans de Clo-Clo rigolent pas du tout avec la mémoire de leur protégé. Il y en a qui ne supportent pas qu'on dise du mal de Clo-Clo.
J'ai jamais supporté toutes les vilaines choses qu'on pouvait dire sur lui.
Ah bah, il y en a pas mal en ce moment.
Et il semblerait que ça recommence. Ouais.
Ah bah oui, ça recommence.
Ça, ça me contrarie considérablement. Mais je dois dire une chose, c'est qu'il a deux enfants, enfin apparemment deux maintenant.
Oui, peut-être un peu plus.
Oui, peut-être un peu plus.
Oui, donc il en a encore combien à votre avis ?
Je ne sais pas, et c'est pas du tout mes oignons.
Non, ça ne nous intéresse pas. C'est après, c'est pour l'héritage, c'est un peu emmerdant, parce que là c'est pire que Johnny. Il en a partout, Clo-Clo, il en a semé, hein. À la banque du sperme, il avait une carte gold. Mais bon, ça c'est la vie privée. Ce qui m'intéresse plus, c'est le fait qu'il était horrible, hein. Voilà, on le sait, de notoriété avec ceux et avec celles avec qui travaillait, alors monsieur ?
Quand on est chef d'entreprise, on peut avoir toutes les exigences du monde. À partir du moment où d'abord on est là pour montrer le chemin.
C'est un peu macroniste alors, hein. C'est peut-être le premier macroniste.
Oui, là, le respect du travail des autres et savoir remercier ou savoir...
Remercier, ça veut dire virer alors.
Ah oui, c'est intéressant. On a vraiment une langue fantastique.
Mais oui, la même langue qui permet de dire que Macron va moderniser le service public, flexibiliser le marché de l'emploi pour faire au final une vraie politique au service des plus riches. J'ai envie de dire, moi comme d'habitude.
Guillaume Meurice, Fabrice, merci de vous avoir voyagé un petit peu sur les lieux de mémoire de Coco.
Eh oui, alors, dans les Yvelines, loin.
Oh, c'est beau. 17h42 sur France Inter, et c'est Alexandra Lamy qui est en notre compagnie. Vous pourrez la voir sur le grand écran, en salle mercredi, Tout le monde debout, de Franck Dubosc. Et on va y revenir avec Thomas Croisière, mais avant cela, un petit devoir, un sujet numéro 2. Prenez vos cahiers d'exercice.
Alors, de quoi on parle ?
Peut-on prêter la Joconde ?
Ah là là.
Et priver quelque temps le Louvre de son attraction principale et la donner à voir à un public qui n'a jamais eu l'occasion de l'admirer, dans une de ses filiales par exemple, hein, le Louvre Lens. Mais pour le Louvre Abu Dhabi, nous sommes d'avis de demander à Mona Lisa si elle va supporter le long voyage.
Moi aussi je pars en avion.
Ah bon ? Pas tant que moi.
Comme ça j'en prends deux et je dors pendant tout le voyage.
Ah ben j'en ai mon 6 alors. Mmh. Merci.
Maintenant vous allez dormir jusqu'à Abidjan.
Mais je descends à Tunis, moi.
Alors, vous en avez peut-être pris un peu beau.
C'est Coluche et Madeleine Barbulé que nous avons mis dans le rôle de la Joconde. Là, évidemment, c'est un extrait de Banzai, le film de Claude Zidi. Alors, je vous le demande comme ça, tout de go, Alexandra Lamy. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais la Joconde. Je veux dire, est-ce que c'est comme la brosse à dents, ça se prête ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ?
Oui, enfin, il faut faire très attention à la Joconde quand même. Oh, parce que, comme vous le disiez, il faut faire attention à la chaleur et tout ça. Il ne faudrait pas qu'on nous l'abîme.
Mais c'est une vieille dame.
Bah oui,
500 ans.
En fait, une fausse.
Alors, c'est la solution.
Alors là, moi, je crois que c'est la meilleure solution. On dit rien à personne, et puis voilà.
Une Joconde en cire, peut-être.
Ah, une belle Joconde en cire.
Je ne vous ai pas demandé, je fais juste une petite parenthèse. Oui, ça vas-y. Fait quoi d'entrer au Grévin? Est-ce qu'on va pouvoir vous balader après? Est-ce qu'on va pouvoir vous emmener à Abu Dhabi?
Alors attention à la chaleur, évidemment, surtout avec la cire, on est d'accord. Ouais. Non, sur le coup, je vous avoue que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, alors d'abord, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire là? Parce que j'ai l'impression d'être un peu une imposture au milieu de ces grandes personnalités. Puis après, je me suis dit,
j'avais l'impression. Il y a Matt Pokora quand même, hein? Il y a Matt Pokora, donc. Oui.
C'est vrai qu'après, bon bref.
Oui, vous mettez mal avec le show business non plus.
Après, je me suis dit, mince, ça fait un peu, je vais mourir. une espèce de petite angoisse, je sais pas, un peu bizarre. Et mon père a eu la meilleure réponse. Il m'a dit, écoute, un jour ou l'autre, tu vas y rentrer. Moi, je serai toi. Faudrait que tu le fasses tout de suite. Ah, maintenant que tu es pas trop mal. Que dans 25 ans. Je me dis, ouais, ça, c'est pas mal. En revanche, je vais le faire tout de suite. Donc voilà pourquoi je suis rentrée. Cela dit, j'étais hyper émue, hyper touchée. C'était, en plus, on est arrivé, c'était dans le théâtre Grévin. Mm-hmm. Il y avait tous les proches. En plus, c'est vraiment que des proches et la famille. Et c'est vrai que c'était assez émouvant. Mais forcément, pour mes parents, tout ça,
aussi
c'était...
parce que vous y alliez quand vous étiez petite. Et que
oui, forcément, quand on allait à Paris, on allait au musée Grévin. Donc,
Et justement, pour en revenir au Louvre, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez vu la Joconde? Est-ce que vous l'avez vue une fois, plusieurs fois? Est-ce que ça vous a laissé un souvenir vraiment ému?
Ouais, vraiment. Je l'ai vue, j'avais emmené ma fille il y a très très longtemps. Et deux fois, je suis allée au Louvre. De toute façon, c'est quand on est évidemment quand on est de province, on est toujours très fasciné, en admiration. Surtout quand on fait tout ce coin là, le Louvre, la Concorde et tout ça, on sait waouh, c'est ça Paris, c'est magnifique. Et moi, j'ai été effectivement, moi j'aime bien la peinture, et dire. Mais oui, j'étais évidemment forcément, il y a un truc de fascination. Après, il y a juste un tout petit truc, c'est sur le coup, tu te dis, oh, je pensais que c'était beaucoup plus grand.
Voilà, évidemment.
Mais en même temps, oui, bien sûr, évidemment.
C'est pas la dernière fois de votre vie où ça vous est arrivé.
Oui, alors bon. Les supporters du. Vous n'avez jamais vu Vixor et Coluche.
Le mannequin piece de Bruxelles, je vais vous dire.
Les supporters du RC Lens, vous savez, il y a un Louvre à Lens, et les Lensois réclament l'arrivée de la Joconde. Et par exemple, même les supporters du RC Lens l'ont réclamé avec une banderole Mona Lisa, le cœur du peuple lensois bat pour toi. Alors je repose cette question, mais même à toute la tablée. Est-ce que emmener. Maintenant qu'il y a un Louvre Lens.
C'est pas loin, elle peut aller faire un petit voyage dans le Nord.
Non, mais c'est normal que les musées prêtent leurs œuvres, vu les réserves qu'ils ont, qui sont astronomiques.
Mais même la Joconde, particulièrement fragile.
Non, mais après, on les prête dans des conditions particulières pour un tour donné, on les remet, enfin, on s'en occupe quand même. C'est des choses, ça fait partie d'un patrimoine.
La frustration pour le gars qui vient du Japon, quand même, s'il tombe la semaine où elle est à Lens, il doit se taper Lens.
Il nous arrive aussi la même chose quand on va au Japon.
Il y a des lignes ferroviaires, et c'est beau aussi.
Je suis fier d'être lensois, monsieur Vizorek, je vous le rappelle.
C'est vrai, Thomas Croisière.
Que j'ai le nez rouge et les dents jaunes. Je suis un sang et or.
Alors, elle a déjà beaucoup voyagé, la Joconde, déjà à l'époque de sa création. Et puis, elle a été volée en 1911. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les conservateurs du Louvre la protègent dans les châteaux de Chambord et d'Amboise. Et en 1963, le tableau traverse l'Atlantique à bord du paquebot France pour être exposé à Washington et New York. Et son dernier voyage officiel, c'est comme un chef d'État, 1974, exposé à Tokyo. Et pour que les œuvres bougent, évidemment, il y en a quelques-unes en Iran pour l'instant. Pour la diplomatie, on envoie Jean-Yves Le Drian et...
Bah, une œuvre en cire aussi, qui n'existe pas en réalité.
Voilà pour les émotions que procure La Joconde. Revenons-en, tiens, à Alexandra Lamy, qui est notre invitée, et le film qui sort en salle mercredi, Tout le monde debout, c'est l'heure de Thomas Croisière.
Par Jupiter, présente. Le cinéma de Thomas Croisière.
Oh là là, c'est chic.
Bonjour Alexandra Lamy, j'imagine que vous me connaissez. Thomas Croisière, chroniqueur cinéma et accessoirement organisateur de soirées privées. Mais j'ai décidé de ne plus en assurer la promotion sur cette antenne car j'ai constaté que cela a brouillé l'écoute de nos auditeurs. Et nous savons qu'il faut toujours brouiller l'écoute avec délicatesse. Et de la délicatesse, il y en a dans le premier film de Franck Dubosc, Tout le monde debout. Attention, afin d'éviter tout malentendu, je préfère vous prévenir. Tout le monde debout n'est pas un biopic. Oui, je sais qu'entre Les Heures sombres et Barbara, on ne voit plus que ça des biopics au cinéma. Mais non, Tout le monde debout n'est pas la biographie du mari de Chantal Goya, Jean-Jacques Debout. Ce n'est pas non plus l'adaptation d'une histoire vraie. Oui, je sais qu'entre Pentagon Papers et The Disaster Artist, on ne voit plus que ça des histoires vraies au cinéma. Mais Tout le monde debout n'est pas l'histoire vraie du moment de solitude de François Feldman qui, emporté par son enthousiasme au Téléthon, cria « Tout le monde debout ». Je me doute, Alexandra, que vous avez dû le voir et le re-revoir lors de votre marathon promo, mais je ne résiste pas au plaisir de réécouter ce moment avec les auditeurs de France Inter qui ne regardent pas la télévision pour ne pas payer la redevance.
Tout le monde debout, là-bas.
Le plus magique, c'est ce là-bas qui n'est pas un hommage à Jean-Jacques Goldman, mais bien un constat de « Oh putain, comment je rattrape le truc !» Cet instant magique a été repris par les Kids United qui, non content d'avoir massacré Michel Sardou et assassiné Johnny Hallyday, d'ailleurs... Information exclusive par Jupiter, c'est après avoir entendu un album des Kids United que Johnny aurait décidé de déshériter non pas ses deux enfants, mais bien tous les enfants du monde. Voilà, j'espère que maintenant que cette information est connue, cela va dépassionner le débat autour de son héritage, car j'ai l'impression qu'il y a d'autres informations qui mériteraient d'être abordées dans les journaux. En attendant, je ne résiste pas non plus au plaisir de vous faire écouter ce moment des Kids United au Téléthon.
Tout le monde est bon.
C'est magnifique. Ne cherchez pas, ne cherchez pas. En trois albums, c'est ce qu'ils ont fait de mieux. Tout le monde debout. Et donc l'histoire de Jocelyn, dragueur et menteur impénitent qui se retrouve à devoir se faire passer pour un handicapé afin de séduire Florence, elle-même en fauteuil. Florence, que vous interprétez Alexandra. Et s'il n'y avait qu'une raison d'aller voir ce film, ce serait vous. Vous êtes à Tout le monde debout ce que Baudérec est à Elle, Jane Fonda à Barbarella, Claudia Cardinal à Il était une fois dans l'Ouest.
La milf, ça. Ouais.
La milf que vous êtes, non pas la...
C'est un compliment aussi.
Non, pas la maman à qui on voudrait compter fleurette, mais la magnifique interprète lumineuse du film, oh, milf oui. Donc, voilà. Irradie de sa beauté, de sa générosité, de son sourire, cette comédie romantique. Vous êtes énormément investi dans votre rôle en apprenant le violon et le tennis en e-sport, me rappelant à quel point j'aurais aimé pratiquer avec vous le tennis en pension. Les amis du contre-pé apprécieront. Mais des raisons de voir ce film, il y en a plus d'une. Et je remercie Franck Dubosc d'avoir réussi à démontrer que oui, on peut faire se gondoler la France en Patrick Chirac au service de l'un des meilleurs jeux de mots de l'histoire pour mémoire. Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi j'ai découvert en plastique, tout en réussissant un film drôle et élégant sur un sujet casse-gueule. Alors qu'aujourd'hui on ghettoise les comiques avec un César du public, Franck Dubosc nous rappelle que l'on peut être amusant et intelligent, voire même rigolo et sensible. Alors oui, c'est pratique de mettre les gens en fauteuil ou non dans des cases, mais Steve Martin a montré que l'on pouvait être à la fois un immense fantaisiste et un excellent comédien. Ben Stiller, un grand comique et un formidable réalisateur. Quant à Louis C.K., il a prouvé que l'on pouvait être un humoriste de génie et un exhibitionniste. Tout le monde debout, comme intouchable ou patient avant lui, prouve que l'on peut se jouer des a priori en s'amusant. Tout en n'en faisant pas le sujet principal de son film d'ailleurs. Ce film repose avant tout sur le mensonge, puisque Jocelyn cherche en vain le grand frisson, car comme il le déclare, « baiser en étant moi, même ça, ça me passionne pas ». Notre héros se retrouve donc enfermé dans son mensonge, comme Bébel dans Joyeuse Pâques, lorsqu'il ne trouve rien de mieux à répondre à Marie Laforêt qui le surprend avec Sophie Marceau que « c'est ma fille !» Ici, remplacé par « c'est mon fauteuil », mensonge fondateur dont notre héros ne peut se relever, sans risquer de perdre son amour, car tel Jean-Claude Duss, il pense que ce n'est que sur un malentendu que ça peut marcher. Ou plutôt ici, rouler. Oui, Tout le monde debout est avant tout une belle histoire d'amour. Et si, comme Jocelyn, j'ai d'abord eu le béquin pour votre sœur, interprétée par la calipige Caroline Anglade, je suis comme lui, tombé amoureux de vous, Florence. Et cela justifie à lui seul que je passe 1h40 dans un fauteuil. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller vous asseoir devant Tout le monde debout, éventuellement à vous y rendre en deux roues. Et si vous y allez avec Ed Sheeran, bah ça fera trois roues.
Merci.
Merci Thomas
beaucoup.
Croisière.
C'est autre chose que Yann Moix, ça, comme
soutien. C'est vrai. Et vous faisiez allusion à François Feldman, mais Franck Dubosc explique qu'il est un peu copain avec François Feldman et qu'effectivement, ça l'a inspiré.
Oui, parce qu'il y avait un autre titre au début sur le film, c'était...
Oui, exactement, et d'abord, oui, il a fait ça, parce que c'est vrai que, évidemment, on imagine bien que Feldman, c'est lui qui a été, ça a été horrible pour lui. C'est un moment, mais qu'on peut tous faire de bourde, etc. Donc, c'était terrible. Et puis, en même temps, au-delà de ça, il trouvait que c'était un titre très positif, finalement, Tout le monde debout, et que, finalement, ceux qui sont debout sont pas forcément ceux qu'on pense.
Donc, on peut être debout dans sa tête.
Voilà, exactement. C'était surtout pour ça.
Alexandra Lamy est en notre compagnie. Et dans le vieux monde, votre supérieur hiérarchique ouvrait un journal où mettait les pieds sur la table pour vous signifier sa supériorité par rapport à vous, soit aussi son mépris. Dans le nouveau monde, tout est beaucoup plus simple, il suffit de baisser la tête sur son smartphone. Ça porte un nom, le fubbing, contraction de faune et de snobbing, snobé, alors qu'il existe mille façons tellement plus drôles de procéder.
Babou, ton
frère... Non, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse plus.
Babou...
Non, je ne veux pas savoir.
Ben, je vais te le dire quand même.
Ben, je t'écoute pas. Va, Nina. Ah, Nina.
Babou, arrête. Babou. Ça suffit, Babou.
Le petit grain de voix de Valérie Benguigui dans Le Prénom, le film d'Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. C'est un article à lire sur lemonde.fr qui nous explique qu'aujourd'hui, si votre patron a le nez rivé sur le smartphone pendant l'entretien, l'échange avec vous, c'est un peu l'équivalent de poser les pieds sur le bureau et afficher une forme de domination, voire de mépris. Est-ce que vous faites la part des choses, vous, Alexandra Lamy, entre l'addiction qu'on a très très nombreux au smartphone et à ce réflexe un peu pavlovien d'avoir le nez dessus et le côté un peu plus où j'affiche ma domination ou le mépris. Est-ce que vous êtes indulgente?
Non, mais il y a un truc, c'est vrai que c'est assez insupportable quand on est face à quelqu'un et qu'on est en train de lui parler de quelque chose et qu'on voit l'autre qui est sur son téléphone. Franchement, c'est insupportable et c'est drôle que vous me disiez ça parce que souvent, et d'ailleurs dans la jeunesse, et la dernière fois, j'étais avec ma fille et je lui dis justement, disons, je te parle. Oui, bah ça va, je peux faire deux choses en même temps. Non, c'est insupportable.
Rappelons qu'elle a 3 ans, hein, c'est ça qui est un peu gênant.
C'est ça qui est un peu gênant. Mais c'est vrai, je comprends parce que c'est aussi sa génération, je comprends. Mais c'est vrai que maintenant, ça devient un peu insupportable et c'est très désagréable pour les. Moi, j'aime bien quand on se regarde un peu dans les yeux quand même, oui. Quand on se parle. Et maintenant, c'est devenu un réflexe qui est terrible. Et parfois, c'est pas mal aussi de... Moi, je sais que justement, j'ai une maison dans le sud et parfois d'avoir mon téléphone qui ne passe pas et je ne pousse pas pour qu'il ne passe pas. Et je me dis, c'est très bien parce que ça fait un peu du bien. Sinon, on est toujours collé là-dedans. Et parfois, on devient... Enfin, j'ai l'impression que ça devient complètement addictif, quoi. On devient fou, quoi.
Compulsif. À un moment, il va falloir que vous me répondiez quand même.
Oui, bon, attendez, oui, parce que je lui réponds. Mais... Non, mais j'ai...
Et lorsque vous l'abandonnez et que vous êtes dans votre maison dans le sud, est-ce que quand vous y revenez, vous avez moins cette addiction ou bien les réflexes reviennent très très vite?
C'est vrai que maintenant, je me demande d'ailleurs comment on faisait avant, mais maintenant avec le boulot, c'est dingue, on est tout le temps comme ça et on passe un temps entre les mails, les textos, les coups de fil. On n'arrête pas en fait et je me dis mais comment on faisait?
Et est-ce qu'on ose le dire? Est-ce que vous osez le dire à la personne à part votre fille? Si c'est pas votre fille, un interlocuteur, est-ce que vous osez lui dire pardon mais je suis en train de te parler ou c'est délicat?
Ah
vous faites.
Ah ouais. Ah bah oui, c'est très désagréable. Ouais. Hein. Bah non, ou alors sinon je m'en vais.
Il s'en rend pas compte.
et après il vous appelle et vous envoie un texto.
Non mais moi-même qui suis patron, c'est vrai que si les salariés disaient des choses plus intéressantes, on ferait un petit peu plus attention.
Il y a peut-être ça aussi.
Voilà, j'aimerais avoir l'avis de Guillaume Meurice sur ce point, je suis sûr qu'il a un avis.
Mais... Moi, je suis malheureusement d'accord avec vous, hein, c'est vrai que...
Et l'article du Monde explique que dans les réunions de travail, elles sont chroniquement polluées par cette attitude, et même si le Monde en parle, c'est que vraiment...
En fait, ma fille, ça l'intéressait pas du tout ce que je lui disais, c'était ça en fait.
Alexandra Lamy, on va revenir à votre cœur de métier, on a une proposition à vous faire.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité. Il le découvre, il ne connaît pas son rôle, mais en même temps, peut-être que vous le connaissez un petit peu.
Attends, je mets mes lunettes.
Édition spéciale d'un gars et une fille en Inde. Emmanuel Macron, Brigitte Macron sont les chouchous et loulous. êtes...
Cette photo devant le Taj Mahal, voilà, il faut en parler quand même.
Vous êtes Brigitte, je suis Emmanuel et le président indien.
Alors attendez, c'est quoi? C'est AV, c'est AL? Ah voilà, pardon.
L'ami, c'est
avec le L. Je crois que c'est ça. L'ami, c'est donc avec le L. Là,
voilà,
c'est ça.
On y va, c'est parti. Oh là là, ça fait plaisir d'être en vacances.
Bon, oublie pas que t'es là pour bosser, mon loulou. Putain, ça faisait longtemps.
Ouais. Ouais, je sais, ouais.
Et pense à te mettre de la crème solaire.
Elle m'énerve.
Bienvenue, monsieur Macron.
Ah, bonjour, monsieur Bodhi.
Et bienvenue, madame Macron.
Bonjour.
Nous vous avons préparé une petite collation. Poulet tikka masala.
Ah, fais attention, tu as l'estomac fragile.
Oui, non, c'est super bon, dis donc.
Voilà, bon, t'as assez mangé maintenant.
Alors, mais m'énerve.
En tout cas, on est très heureux de vous acheter des réacteurs nucléaires. Vous avez un vrai savoir-faire.
Ah bah nous, on est très heureux d'avoir trouvé des gens qui veulent encore nous en acheter parce que. Alors non, mais c'est qui ces gens qui manifestent là?
C'est des manifestants anti-nucléaires.
Ah, encore des réactionnaires qui sont contre le progrès, bien sûr.
Ils s'inquiètent, s'inquiètent du risque sismique.
Ah parce qu'il y a des tremblements de terre chez vous.
Mais je te l'ai dit.
Non. Bah faites attention parce qu'il faudrait pas que ça finisse en Fukushima. C'est...
Bon, arrête de raconter des bêtises. Allez,
on peut plus rigoler, elle m'énerve.
Allez, on va rencontrer les étudiants.
Alors ça s'ennuie un peu parce que ma femme, elle aime encore bien les étudiants.
Ah oui, non, mais parlez-leur.
Non, je sens pas bien que ce poulet, là, c'est...
Allez, tu leur parles et puis on va au Taj Mahal.
Ah bah super, ok, d'accord. Les jeunes, sortez-vous les doigts du cul.
Bravo, monsieur Macron, c'est un magnifique discours.
Bah, vous avez vu l'ambiance que j'ai mise, là? Bah, ils étaient comme des dingues, les gamins.
D'ailleurs, il y en avait un ou deux, là, qui étaient pas mal.
Mais qu'est-ce que vous avez dit, là? Qu'est-ce que vous avez dit?
C'est
beau.
Waouh. C'est vraiment beau le Taj Mahal. Souris un peu pour les photographes, mon loulou.
Bah, je me sens pas très bien. C'est...
T'avais dit de faire attention à ce que tu manges. Ce beurre clarifié, c'est très indigeste, mais tu m'écoutes jamais.
C'est indigérable plus qu'indigeste, je tiens plus. Là.
Oh l'Inde, la prochaine fois, c'est pas des rafales que je vais leur vendre, c'est de l'imodium. Non, le photographe de Paris Match, tu peux aller voir ailleurs, s'il te plaît.
Bravo pour l'accent, parce que c'était vraiment pas facile.
Ouais, il y avait un risque beaucoup. Raciste, il y avait une alerte un peu dans ma tête.
Merci Alexandre Lamy, on ne regardera plus ces photos du même œil, ces photos romantiques de Brigitte et Manu. Merci beaucoup d'être passé par chez nous, Alexandre Lamy.
Merci à vous.
Je rappelle donc Tout le monde debout, c'est le film de Franck Dubosc qui se lance en salle mercredi avec Alexandra Lamy, avec Franck Dubosc lui-même, avec Elsa Zilberstein qui paraît très, très drôle.
Je vous
aussi,
le confirme.
Avec Gérard Darmon et Caroline Anglade.
Gérard Darmon, proctologue.
Ah, ouais, ça vient
très drôle. Caroline Anglade qui est une nouvelle actrice qui est super. Oui. On découvre.
Très.
Ouais.
Et bien voilà, allez juger sur pièce.
Il a Keblo.
Merci
il
les amis.
Complètement Keblo.
Merci Thomas Croisière, merci Guillaume Meurice, merci Alexandre Vizorek et Djoubaka et sa revue Hey, on le rappelle. Et puis on se retrouve demain, et puis le mot de la fin à un son culte de cette émission dont l'interprète est notre invité.
Nous, on est en vacances, on est là pour se détendre.
Ouais, on est là pour avoir du plaisir. Merde.